Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
François Pinet.
L'Intégral Foot continue. Bonjour à tous avec Roland Courbis. Salut coach.
Salut les amis.
Dans un instant, on sera à l'Allianz Riviera pour Nice-Strasbourg, match de la 17e journée de Ligue 1. On vous rappellera également les scores de cette 17e journée. Grosse fin d'après-midi sur RMC avec le départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite à suivre en direct et en intégralité sur RMC. C'est l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Ça peut être le jour du sac pour Max Verstappen. Un départ qui devrait être reporté puisqu'il y a eu un gros accident en F2. Théo Pourchaire, le Français, a été percuté sur la grille de départ par le Brésilien Enzo Fittipaldi. On a des nouvelles du pilote français via le diffuseur. Il est sorti conscient de sa monoplace et il a enlevé son casque, Théo Pourchaire. On essaiera de vous donner d'autres nouvelles d'après son entourage qu'on a pu contacter. Théo Pourchaire va bien, c'est la bonne nouvelle bien sûr, et on retrouvera Jean-Luc Roy pour d'autres informations. Il y aura également du hand féminin au programme avec à 18h France-Slovénie, tour préliminaire des championnats du monde. Mais tout de suite, direction l'Allianz Riviera de Nice, Nice-Strasbourg avec Timothée Mémon et Clément Brossard. Bonjour messieurs.
Salut François, salut coach, bienvenue en Côte d'Azur.
Salut messieurs, salut à tous.
Rappelez-nous les compos.
Avec deux infos importantes dans les rangs niçois. On va pas changer la composition tactique, en tout cas on reste sur un 4-4-2, mais sans le capitaine Dante qui a besoin de souffler après tout cet enchaînement de matchs, et sans également Amin Gouiri comme face au Paris Saint-Germain.
C'est pareil,
déjà remplaçant. La compo donc Walter Benitez dans le but, Flavius Daniluc pour remplacer le Brésilien avec Jean-Claire Todibo, Lotomba à droite, Melvin Barr sur le côté gauche, Lemina et Rosario à la récupération, Calvin Stengs sur le côté droit, son compatriote Justin Kluivert à gauche, et puis devant Andy Delors et Kasper Dolberg.
Et du côté de la composition du Racing Club de Strasbourg, Matzels sera dans la cage avec une défense à 3, Perrin, Niamsi, Djikou sur le côté droit, Gilbert sur le côté gauche, Cassi au milieu de terrain, Thomasson, Bellegarde et Sissoko, et puis devant ce sera la doublette Diallo Ajorc, une doublette particulièrement prolixe depuis le début de la saison.
Voilà, Nice-Strasbourg, c'est la rencontre que l'on va suivre évidemment avec des Niçois qui doivent une revanche à leur public, Clément et Timothée, puisque le dernier match, ils l'avaient perdu contre le Football Club de Metz à l'Allianz Riviera.
Alors il y a eu cette défaite face au Football Club de Metz, en effet, une autre défaite aussi avant cela face au Montpellier Hérault, deux défaites de suite pour les Niçois à l'Allianz Riviera, alors que Jérémy Pignard va lancer cette rencontre. Adrien Thomasson également, le Strasbourgeois, est au centre du terrain.
Et si tu remontes un peu, il y a le miracle Lyon aussi.
Exactement, il n'y a plus d'un miracle, hein, même si tu veux jouer de ce côté-là dans ce tableau-là, coach, avec un miracle contre Angers, un miracle contre Clermont. Il n'y a pas eu de miracle en revanche lors de certains matchs face à Lorient et Troyes. C'est parti pour cette rencontre entre Niçois qui ont besoin de se rassurer absolument à domicile pour ne pas voir ses premières places trop s'éloigner, et cette équipe strasbourgeoise qui a retrouvé une pleine confiance. Les hommes de Julien Stéphan font de très beaux résultats, continuent de marquer. Ça peut nous offrir un bon rendez-vous à l'Allianz Riviera ce soir.
Et Gouiri, c'est quoi, blessure, suspension?
Non, pas du tout, un choix tactique. Il était déjà sur le banc face au Paris Saint-Germain. Il est sur le banc. Dante, c'est pareil, il a besoin de souffler, mais il est sur le banc. Il pourrait rentrer donc en cours de partie, mais Christophe Galtier a préféré donc ce duo Andy Delors et Kasper Dolberg.
Pour le moment, on marche jamais.
Exactement, quand c'est aligné sur un 4-4-2, c'est très difficile pour les deux de s'entendre. On verra bien s'il y a eu un tournant. En tout cas, ce match du Paris Saint-Germain compte comme un tournant pour Walter Benitez. C'est ce qu'il disait cette semaine en conférence de presse, parce que défensivement ça a très très bien marché, alors que c'était pas le cas sur les dernières semaines. Donc ils ont fait le plein de confiance également, ces Aiglons. On va falloir le montrer désormais sur la pelouse face à cette équipe du Racing.
Surtout que Strasbourg en ce moment, c'est pas un cadeau hein, comme équipe à recevoir.
Et tu le disais coach, c'est vrai que cette doublette devant, elle ne marche pas, mais il faut se souvenir que Christophe Galtier est un homme capable de s'entêter, ou en tout cas de persister dans ses idées. Souvenez-vous notamment la saison dernière quand il alignait Jonathan David à la pointe de l'attaque lilloise pendant un bon moment. On se posait des questions et puis finalement il a réussi à débloquer son joueur. À mon avis, son but est celui-là. En tout cas, c'est plutôt le sens des échanges que j'ai pu avoir avec lui avant le début de la rencontre, sur justement ses choix en pointe et sur aussi la volonté de faire tourner après le bon match face au Paris Saint-Germain de cette semaine.
C'est très bien ce que tu nous dit, à la petite différence quand même, c'est que moi je te parle d'un duo Je ne te parle pas d'un joueur que tu as acheté presque 30 millions et qui, évidemment, tu as presque vis-à-vis de ton club.
Tu parles de complémentarité.
Voilà, l'obligation d'insister sur David. Alors que là, c'est deux numéros 9. Et je me rappelle que chaque fois qu'ils jouent ensemble, bon, mais c'est très moyen, pour ne pas dire insuffisant.
Et tu sais bien, coach, que Christophe Galtier adore parler de binôme sur les ailes, et si ça marche plutôt pas mal pour les latéraux, défensifs en tout cas, il y a aussi deux hommes qui ont besoin de faire leur preuve avec l'OGC Nice depuis le début de la saison. C'est pas vraiment ça, parce qu'il y a eu pas mal de blessures également, c'est Justin Kluivert et Calvin Stengs attendus au tournant avec l'OGC Nice aujourd'hui face à Strasbourg. Des Alsaciens qui vont, pourquoi pas, se créer la première opportunité avec un corner, Timothée.
Ouais, premier sur le banc, hein.
Premier Attal sur le banc, exactement. Premier corner en faveur des joueurs strasbourgeois. Ce sera sur le côté gauche pour aller le frapper. Jean Reckner, Bellegarde, qui va frapper ce corner de la gauche vers la droite en regardant la cage de Walter Benitez. Du monde dans cette surface de réparation. Les grands gabarits de Diallo d'Ajorc. Et finalement, ce sera très très mal frappé et ressorti au premier poteau par Casper Dolberg. C'est vrai qu'il semble avoir topé un petit peu son centre. Jean Reckner, Bellegarde. Attention à cette nouvelle balle dans la profondeur. Le contrôle de Diallo dans une situation délicate et du bout du pied, il a failli tromper son propre gardien Flavius Daniluic, préféré à Dante en défense. Là aussi, c'est une rotation purement physique, purement dans l'idée de faire reposer un peu le Brésilien.
Ouais, Flavius Daniluic très rapidement a enchaîné quelques titularisations déjà depuis le début de la saison. Alors c'est vrai qu'il y a cette charnière qui fonctionnait très bien, notamment face au Paris Saint-Germain, où beaucoup ont pu s'en apercevoir avec Jean-Claire Todibo et Dante. Mais Flavius Daniluic est un homme qui a toujours eu la confiance de Christophe Galtier, le défenseur autrichien qui a fait ses classes de jeunes chez le Real Madrid, chez le Bayern Munich. Donc il a beaucoup appris chez ses cadors européens avant de trouver un peu plus de stabilité du côté de Nice, où il veut s'installer dans la Turée, en Côte d'Azur, où il se sent très bien depuis qu'il est arrivé la saison dernière. Daniel qui va pouvoir tourner justement avec Jean-Claire Todibo. 4 minutes de jeu à l'Allianz Riviera, toujours pas de but entre Nice et Strasbourg.
On y reviendra dans un instant, bien sûr. Je vous rappelle aussi les résultats de cet après-midi que vous avez pu suivre en direct sur RMC avec le carton rennais à Saint-Etienne. On y reviendra dans un instant avec toi, coach, bien sûr. Victoire 5-0 des Rennais à Saint-Etienne. Hein. Timothée, tu as dû suivre ça aussi de très près.
Avec douleur.
Si vous êtes supporter des Verts, vous n'hésitez pas, d'ailleurs, le hashtag RMC Live sur Twitter, l'appli RMC Direct Studio. Et puis la victoire de Nantes à Lorient 1-0. Victoire de Montpellier face à Clermont 1-0. Reims s'est incliné à domicile face à Angers. Victoire des Angevins 2-1. Et puis la large victoire de Monaco face à Metz. C'est pas facile d'être supporter messin aussi, Timothée.
Tu as dû suivre ça.
Ouais, 4-0
également,
pour Monaco.
On est ensemble.
Voilà. Ce soir 20h45 Bordeaux-Lyon, et on sera d'ailleurs avec Jeannot Rességuier dans un instant pour les dernières infos avant ce dernier match de la 17e journée. Nice-Strasbourg, on a beaucoup parlé des Niçois. Les Strasbourgeois, on le disait, restent sur un succès 5-2 face à Bordeaux. Une équipe emballante sur le plan offensif, hein, troisième meilleure attaque derrière le PSG et Rennes. Et des Strasbourgeois qui en revanche à l'extérieur ne sont que la 17e équipe.
C'est une équipe qui réussit clairement mieux à domicile, portée aussi par un stade de la Méno particulièrement chaud. Alors aujourd'hui, ils sont une grosse centaine à avoir fait le déplacement, les Ultra Boys 90, les supporters de cette formation strasbourgeoise. Mais c'est vrai que ces dernières saisons, globalement, Strasbourg est mieux à la maison. Et il va falloir, s'ils veulent confirmer leur bonne prestation à domicile, il va falloir les bonifier avec des résultats à l'extérieur. Et c'est vrai que pour le moment, ils sont à la peine dans ce domaine, les hommes de Julien Fournier. C'est un problème, hein, parce que les statistiques sont globalement bonnes pour les Strasbourgeois depuis le début de la saison, mais il leur manque de l'efficacité à l'extérieur, peut-être un peu trop perméable aussi à l'extérieur, les hommes de Julien Stéphan. Avec 22 buts encaissés depuis le début de la saison, c'est un peu beaucoup. Il y aura un coup franc là en faveur des Strasbourgeois après 5 minutes 40 de jeu, toujours 0-0. Un coup franc axial, très loin de la surface de réparation, mais une possibilité peut-être pour aller chercher les grands gabarits. Et il y en a ô combien dans cette équipe. On pense évidemment à Alexander Djikou, à Diallo, à Jorc. Une possibilité peut-être pour les Alsaciens.
Ouais, un tacle de Mario Limina sur Habib Diallo. Donc le coup franc qui va être joué par ces Alsaciens en forme, c'est vrai, meilleur début saison pour les hommes de Julien Stéphan depuis la saison 2002-2003. Ça commence à faire maintenant et ça prouve que les Alsaciens sont en grande forme. Le coup franc tiré à l'instant dans la boîte, la surface de réparation, c'est repoussé par une tête niçoise, puis la frappe derrière à l'entrée de la surface de réparation d'Adrien Thomasson qui est passé au-dessus de la cage de Walter Benitez. Mais ces Strasbourgeois ont retrouvé une pleine confiance. J'ai eu l'occasion de discuter avec l'entraîneur Julien Stéphan juste avant le début de cette rencontre et il me disait ce qui m'a frappé en arrivant au club cet été, c'est de voir à quel point ces joueurs n'avaient pas confiance en eux. Ils avaient tout perdu après la saison délicate la saison dernière. Et puis finalement, petit à petit, avec les bons résultats qui s'enchaînaient, ils ont retrouvé un petit peu une confiance personnelle chacun. Et puis ils ont appris à travailler pour le collectif, se sont retrouvés. Et donc ça se voit sur le terrain, parce qu'à l'image du Strasbourg qui a notamment joué à Monaco, pour les avoir vus la semaine dernière, on sent qu'il y a une vraie force collective qui se dégage petit à petit de ces hommes, même s'ils sont évidemment plus en difficulté à l'extérieur qu'à domicile. Ou d'ailleurs, une stat qui est beaucoup relayée par les supporters strasbourgeois, Strasbourg est l'équipe la plus offensive du Big Five, des cinq plus grands championnats européens, à domicile ex aequo avec le Bayern Munich. Alors les supporters strasbourgeois adorent évidemment se comparer aux cadors européens, dont j'imagine les 137 spectateurs présents ici à l'Allianz Riviera. Les Alsaciens avec le ballon dans les mains, une touche sur le côté gauche avec Anthony Cassis.
Et sur les deux bancs, deux très bons entraîneurs français.
Et qui s'apprécie, hein. On a vu la collade serrer l'étreinte particulière entre Julien Stéphan et Christophe Galtier juste avant le début de rencontre. Il y a beaucoup de respect entre ces deux hommes. Julien Stéphan qui a également retrouvé un jeune joueur à Nice qui est sur le Mans aujourd'hui. Il s'agit de Lucas Dacunha, lui qui avait retrouvé un Sofiane Diop qu'il avait formé du côté d'Arène la semaine dernière avec Monaco. Et bien il a formé également Lucas Dacunha qui est sur le Mans aujourd'hui, mais qui est un joueur en devenir du côté de l'OGC Nice.
Et des attitudes
à l'Allianz Riviera 0-0.
Des attitudes très similaires de la part des deux entraîneurs depuis le début de la rencontre. Ils sont postés dans leur zone technique et multiplient les consignes pour replacer. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'encouragement. Ce sont des petites consignes pour replacer les uns les autres, notamment sur les dégagements de Walter Benitez. Clairement, il semble attendre plus de la part de Calvin Steins, Christophe Galtier. Ballon dans les pieds strasbourgeois avec cette balle sur le côté gauche. On va repasser par l'axe de la défense. 0-0 après 8 minutes de jeu.
Alors, je vous donne des informations complémentaires sur Théo Pourchaire qui, je vous le rappelle, le pilote français de F2, a été percuté au départ.
Voilà, déviation, le ballon dans la surface de réparation, la frappe et la grosse parade de Walter Benitez qui s'interpose devant Sissoko. C'était magnifiquement joué, la déviation de la tête d'Ajorque. Diallo qui, un peu malgré lui, laisse passer ce ballon. Oui, attention, la ressortie de balle de la part d'Andy Delors qui est en train de déposer tout le monde. Et finalement, le retour défensif, mais grosse occasion là pour les Strasbourgeois et première parade essentielle importante de la part de Walter Benitez.
C'est le joueur, l'attaquant qui se rate là, ou c'est le gardien qui fait l'exploit, coach?
Un peu les deux, mais je pense que l'attaquant, en plus de ça, c'est pas un attaquant. C'est milieu.
C'était Sissoko, c'est ça?
Ouais. Sissoko, oui.
Ouais, c'est donc, pas un attaquant habituel, bien sûr.
C'est pas très très bien joué.
Ouais, il peut faire mieux, mais face, bon, à Benitez.
Ça n'enlève rien là. Le bel arrêt de Benitez.
Toujours 0-0 entre Nice et Strasbourg, bien sûr. Donc, je vous le disais, on a pu contacter l'entourage. Alors qu'on va suivre peut-être cette occasion.
Avec ce ballon sur le côté gauche, le centre fort à l'entrée de la surface de réparation. Ça revient vers Diallo qui va pouvoir mettre cette balle en retrait à la sortie. Une nouvelle fois de Benitez. Attention, elle est aux abois. Elle est aux abois, cette défense. Il y a un drapeau qui a été levé, une position de hors-jeu. Mais monsieur l'arbitre va intelligemment laisser le jeu se poursuivre. Elle ne reviendra pas, une faute sur Steins. Allez, 0-0 entre Nice et Strasbourg. Allons-y pour les nouvelles.
Ouais, je retente moi la chance, mais n'hésite pas bien sûr à intervenir s'il se passe quelque chose. Donc on a pu contacter l'entourage du pilote Théo Pourchaire qui a été percuté au départ du Grand Prix en F2 en Arabie Saoudite par Enzo Fittipaldi. Des nouvelles plutôt rassurantes, hein. L'entourage du pilote nous indique qu'il va bien, Théo Pourchaire, qu'il est toujours dans l'ambulance vers l'hôpital pour passer des contrôles médicaux, mais on l'a vu enlever son casque et être conscient. Bonne nouvelle pour Théo Pourchaire. On attend aussi des nouvelles d'Enzo Fittipaldi qui lui a été transporté en hélicoptère pour être soigné, bien évidemment. On vous tient au courant avec Jean-Luc Croix qui suit ça de très très près, et on vous donnera également l'horaire de départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite en Formule 1 qui est l'avant-dernier Grand Prix de la saison, peut-être le jour de sacre de Max Verstappen, et on le suivra en direct bien sûr ce Grand Prix sur RMC. C'est un des événements de la fin d'après-midi.
Pilote azuréen, hein, Théo Pourchaire, ouais. Né à Grasse.
On suit bien sûr des nouvelles de Théo Pourchaire. 17h10 sur RMC, on est avec Coach Courbis, avec Timothée Mémon, avec Clément Brossard. On vient dans un instant pour Nice-Strasbourg, 17e journée de Ligue 1, 0-0, au bout de 11 minutes de jeu pour l'instant. A tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
François Pinet.
17h14 sur RMC avec Coach Courbis, l'Intégral Foot. Dans un instant, on reviendra sur la claque reçue par Saint-Etienne, 5-0, battu à domicile par Rennes, 5-0. Mais d'abord, direction l'Allianz Riviera, on suit Nice face à Strasbourg. Timothée Mémon, Clément Brossard.
Un quart d'heure de jeu, 0-0 entre Nice et Strasbourg. Mais les Strasbourgeois sont chauds et ils ont décidé de tenter leur chance. De nombreuses frappes depuis le début de cette rencontre. Alors, il y a eu une occasion très dangereuse avec ce plat du pied de Sissoko qui a été sorti par Walter Benitez. Benitez. Des incursions aussi dans la surface particulièrement dangereuse, mais aussi bon nombre de frappes. Alors pas toujours cadré, je le disais, mais tout de même ils sont là, alors que eh bien les Niçois, eux, n'ont pas encore frappé sur le but de Matsels, le ballon dans les pieds strasbourgeois.
Avec Adrien Thomasson notamment, très intéressant dans le cœur du jeu pour les Alsaciens. Sissoko au milieu de terrain qui va se défaire du marquage de Mario Limina. Le ballon revient dans l'entrejeu avec Lucas Perrin, le centre de l'ancien Marseillais pour trouver la tête d'Ajor pour essayer de dévier vers Habib Diallo. La relance un petit peu en catastrophe de la part du milieu gabonais Mario Limina. Les Strasbourgeois vont avoir une touche là dans le camp niçois pour pouvoir peut-être trouver une faille. C'est vrai qu'il y a quelques espaces dans la défense niçoise depuis le début de cette rencontre, à l'image de cette touche où Ibrahima de Sissoko a été facilement trouvé. Nouveau corner à venir pour Strasbourg.
Ah, corner qui serait une nouvelle fois.
Il n'y a pas photo sur les 15 premières minutes qu'on vient de vivre.
On a
la confirmation que Strasbourg, c'est pas un cadeau en ce moment.
C'est vrai qu'ils sont bien en forme, ils sont en pleine confiance puisqu'ils tentent leur chance. Le corner à venir sur le côté gauche quand on regarde la cage de Walter Benitez pour aller le frapper une nouvelle fois. Jean Reckner Bellegarde pour essayer de mettre ce ballon dans la surface de réparation sur une tête de l'un de ses partenaires. Jean Reckner Bellegarde qui va lever la main droite, peut-être une mise en place. Le ballon entré de surface de réparation sera une nouvelle fois très mal tiré, un ballon qui sera ressorti, ça revient vers Lucas Perrin. La nouvelle possibilité peut-être pour les Strasbourgeois. Le ballon qui sera centré, qui va partir loin derrière la cage de Walter Benitez. Il va falloir qu'il règle la mire, Jean-Reckner Bellegarde.
Un commentaire sur les corners de Bellegarde.
Ça fait deux fois qu'il frappe la pelouse.
Voilà.
Donc il faut qu'il vise la pelouse, comme ça il attrape le ballon.
Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit une pelouse de très bon état non plus sur les côtés et sur les points de corner. Mmh. Coach, j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup d'herbe, clairement, aux alentours de l'arc de cercle pour frapper les corners. C'est peut-être pour ça que vous voyez à l'écran, messieurs, des nuages de fumée partir du pied de Jean-Reckner Bellegarde quand il tente ses coups de pied arrêtés. Le long dégagement de la part de Walter Benitez sur une tête niçoise, celle de Andy Delors, celle de Ludovic Ajorque. Finalement, l'attaquant réunionnais qui va récupérer le ballon, il est très bas, hein, il décroche beaucoup Ludovic Ajorque pour participer au jeu également, jouer en déviation et tenter d'alerter de temps en temps Habib Diallo qui lui a un rôle un petit peu plus haut pour chercher la profondeur. Ces deux attaquants très complémentaires et qui se trouvent bien depuis le début de la rencontre. 17 minutes de jeu, toujours 0-0, offensive niçoise.
Ballon dans les pieds de Stengs. Stengs qui lève la tête, qui va chercher une solution. Le petit crochet, le petit râteau pour effacer son vis-à-vis, écarté sur le côté droit avec la montée de Jordan Lotomba qui lève la tête, qui va crocheter, qui va effacer Bellegarde. Le centre de Lotomba avec Delors qui réclame une faute, qui réclame d'avoir été poussé dans la surface de réparation par Lucas Perrin. Il y a probablement rien et même assurément pas grand-chose. En tout cas, on en reste à 0-0 après 18 minutes de jeu.
Alors, été muselé par Lucas Perrin sur ce coup-là, Andy Delors.
On va en profiter pour parler du match de l'après-midi entre Saint-Etienne et Rennes, de cette large victoire des Rennais 5-0 chez les Verts, avec Damien Tardieu, puisque tu étais à Geoffroy Guichard pour commenter la rencontre. Salut Damien.
Salut François, salut coach, salut tout le monde.
Salut Damien.
On a vu des réactions de supporters à la fin de la rencontre. Est-ce que tu peux nous raconter, toi qui étais au bord de la pelouse?
Alors il faut rappeler déjà que les deux copes étaient suspendues, en tout cas les deux tribunes derrière les buts fermés. C'était la suite des incidents du match face à Angers. Donc il y avait une partie des habituels supporters dans le COP stéphanois qui étaient dans la tribune latérale en face de la tribune de presse. Et en fait, au vu du déroulé du match, eh bien une partie de ces supporters est descendue en bas de cette tribune, vraiment s'arrêter au panneau publicitaire, arrêté par un cordon de vigiles qui étaient là, de stadiers qui ont évidemment fait rang pour empêcher tout débordement. Alors il n'y a pas eu de débordement et de tentative d'intrusion sur le terrain, mais tout dans une ambiance de chambrage des supporters à propos de leur propre équipe, avec des olés à chaque fois que Rennes réussissait une passe, avec des puels d'émission, des dirigeants d'émission, bref.
Ça aurait dû faire but, cette balle dans la profondeur avec Diallo qui a manqué de précision. C'est rare de le voir manquer quelque chose comme ça, parce que l'ouverture était parfaitement brossée. Elle a mis en grande difficulté le défenseur central. J'ai un doute à savoir si c'est Dany Luik ou Jean-Claire Todibo. Toujours est-il que le défenseur niçois, c'est Todibo, n'a pas su lire la trajectoire de ce ballon et Diallo passe devant son vis-à-vis. Mais alors il met ce ballon complètement au-dessus. Ouais, il le prend un peu tibia. Oh, il était à l'entrée des 6 mètres. Il suffisait de cadrer pour marquer et il a mis ce ballon au-dessus. Ouais.
Et le geste de Flavius Danius envers Jean-Claire Todibo, bras écarté. On voit clairement qu'il y a un problème de communication pour l'instant dans l'axe de cette défense niçoise. Les hommes de Christophe Galtier vont devoir là se recadrer tout ça là pour éviter les offensives qui se multiplient pour les Strasbourgeois. Le drapeau s'est levé pour une position de hors-jeu contre Ibrahima
Sissoko. Surtout qu'il se multiplie, mais là on va, ça va faire 20 minutes. Ouais. Et j'essaie de me rappeler ce qu'a pu faire Nice dans les 27 derniers mètres de Strasbourg. Mais pour moi, je me rappelle
pas une seule frappe.
Rien du tout. Avantage Strasbourg bien évidemment sur les occasions, ça fait deux très très grosses occasions pour les Strasbourgeois, toujours 0-0 entre Nice et Strasbourg. Damien, tu nous racontais effectivement les supporters stéphanois qui prenaient un peu avec humour, en tout cas qui se moquaient un petit peu de leur propre équipe, battue 5-0 on le rappelle par Rennes cet après-midi.
Ouais, exactement. Ils ont chambré leurs propres joueurs en applaudissant les joueurs rennais à chaque passe réussie, en se manifestant, en lançant également des cris et des chants contre leurs dirigeants. Bref, ça s'est fini dans une ambiance un peu tendue. Il n'y a pas eu de débordement. Il y a des supporters ensuite qui se sont massés vers la sortie principale, là d'où sortent les joueurs du stade Geoffroy Guichard.
Mais attention, les deux voilà, joueurs qui va se présenter devant Benitez, Ludovic Ajor. La nuit qui vient glisser ce ballon du bout du pied pour tromper Walter Benitez et en profiter pour inscrire déjà son 9e but cette saison. Irrésistible Ludovic Ajor ces dernières semaines, ces derniers mois, l'attaquant strasbourgeois qui lance le Racing Club de Strasbourg et permet aux Alsaciens de mener 1-0, et c'est ô combien mérité après 21 minutes de jeu. 1-0 pour Strasbourg.
Benitez sur cette ouverture qui aurait pu quand même être un petit peu trop
tenter
long.
tenter de sortir un petit peu plus tôt.
Dormir,
c'est hein. aussi mon avis. On peut aussi inculper la défense centrale de l'OGC Nice, et Melvin Barque a tenté de revenir de son côté pour aider cette défense centrale aux abois. C'est mérité pour les Strasbourgeois offensivement, c'est mérité pour les Niçois défensivement que ce but ait été inscrit après 21 minutes de jeu. 1-0 pour Strasbourg face à Nice.
Gros problème de charnière, on en a parlé tout à l'heure, mais entre Jean-Claire Todibo et Flavius Danuk une nouvelle fois, Todibo qui semble clairement aux fraises, Sissoko qui part dans le dos de Flavius Danuk, c'est Melvin Barre qui est arrière-gauche obligé de repiquer dans l'axe pour être au duel avec Ludovic Ajor. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à régler dans cette défense niçoise alors que c'était presque parfait face au Paris Saint-Germain il y a seulement 3 jours.
Tu as raison, dans cette défense, mais pas seulement dans cette défense, là pour le moment il n'y a aucun équilibre.
Et on peut saluer aussi
dans cette équipe niçoise, et je ne prendrai pas de risque en disant que très rapidement, je ne dis pas avant les 45 minutes, mais Gouiri fera sa rentrée.
Alors, c'est fort possible, coach.
On peut saluer aussi, bien sûr, le mouvement strasbourgeois aussi, qui est classique mais réussi avec Ajor dans la profondeur, bien lancé par Bellegarde. Et ça fait donc 1-0, 9e but d'Ajor en Ligue 1. Et du coup, pour les cotes, Johan, qu'est-ce que ça donne avec cette ouverture du score strasbourgeois?
Le corner peut-être à venir, François, juste avant. Corner pour l'OGC Nice, frappé par le pied gauche de Calvin Stengs. Il y a du monde qui est monté, notamment Jean-Claire Todibo. C'est frappé au premier poteau, une tête strasbourgeoise pour écarter le danger. Toujours 1-0 pour Strasbourg après 23 minutes de jeu.
Johan, les cotes du coup?
Ça s'est complètement inversé, François. 4,90 maintenant la victoire niçoise, 3,45 le match nul, 1,56 la victoire des Alsaciens.
Ouais, je ne sais pas ce que coach parie là-dessus, mais...
Ben, disons que je ne parie pas la victoire de Strasbourg, donc je la parie toujours pas.
Ok, très bien. On continue de suivre cette rencontre, bien sûr, 1-0 pour les Strasbourgeois au bout
mais
de 24 minutes.
Strasbourg accroche Nice, ça, j'ai pas besoin de parier, j'en étais sûr.
Damien, du coup, tu as été coupé deux fois, hein, désolé, mais il se passe des choses du côté de l'Alliance Riviera. Il s'en est passé beaucoup des choses du côté de Geoffroy Guichard, on l'a dit. Avec Claude Puel, évidemment, qui était en conférence de presse. Damien, on va l'écouter, l'entraîneur stéphanois, après cette claque reçue par son équipe.
Depuis le début de saison, c'est un groupe qui bataille, qui se relève à chaque fois et qui va encore se relever. Parce que c'est comme ça, et parce que cette saison est très particulière. Et ils savent qu'on n'a pas le droit de lâcher.
Damien Tardieu, tu as vu les joueurs, toi, en zone mixte ensuite, les joueurs stéphanois. Est-ce qu'ils étaient dans l'état d'esprit que souhaite Claude Puel, pas abattu du tout après une défaite 5-0?
Bah forcément que non, que les têtes étaient basses, que les mines étaient graves, et les termes employés d'ailleurs ont finalement été assez clairs, hein. Harold Moukoudi notamment, qui l'a dit, on est tous abattus, c'est honteux, c'est catastrophique. On a vu également passer Timothée Kolodziejczak qui disait à peu près la même chose, on est abattu, on n'était pas une équipe de Ligue 1 sur le terrain. Donc cet aspect de Claude Puel qui dit on va vite se relever, on l'a pas tellement senti pour les joueurs qui doivent d'abord digérer digérer ça. Ça viendra peut-être dans les prochains jours. Mais là, vraiment, l'heure était pour les joueurs à la déception. Et ils avaient vraiment pris un gros, gros coup sur la cafetière. Et on va voir comment ils se relèvent avec, en plus, on le disait, cette pression du public qui va être encore plus forte dans les prochaines semaines.
Ouais, exactement. Prochain match, ça sera à Reims pour Saint-Etienne. Ensuite, réception de Nantes avant les fêtes. Merci beaucoup, Damien. À
merci.
Bientôt. Merci beaucoup.
À bientôt.
Coach, c'est vrai que quand on voit une défaite 5-0 à domicile, ouais, Saint-Etienne qui est dernier avec un Claude Puel qui dit il ne faut rien lâcher, on a du mal à croire quand même l'entraîneur stéphanois.
Mais disons qu'on a du mal à le croire, ça c'est une évidence, mais j'essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'il aurait pu dire. Que c'est plus une défaite, c'est une déroute, ça. C'est pas à lui de le dire. On va suffisamment le dire dans les jours à venir. Parce que là, attention, c'est pas une défaite. Attention, c'est dramatique. Moralement, footballistiquement, tactiquement, physiquement, il y a tout. Là. Et quand je vois l'équipe de Saint-Etienne sur le papier, qui avant le match, je me dis, mais cette équipe-là est suffisamment solide pour avoir confiance justement et pour pouvoir se sortir de cet objectif qui est le maintien. Mais j'ai un gros doute.
Ouais. Si je puis me permettre d'ajouter juste un point, étant habituellement celui qui suit ce club de Saint-Etienne, et pour vous transmettre l'avis des supporters, et pas le mien, hein, l'avis des supporters, ouais, qui commence à poindre, c'est que le discours de Claude Puel, un peu lénifiant, commence à très clairement agacer, et il ne passe plus. Parce que dire que ce groupe s'est relevé à chaque fois, quand on parle d'un groupe qui a 9 défaites, 6 nuls et 2 victoires contre les deux promus cette saison, deux victoires seulement, on ne peut pas parler d'un groupe qui relève la tête systématiquement. Donc ça commence à ne plus passer. Alors si le message passe dans le vestiaire, il semblerait que ce soit le cas, sinon probablement qu'il aurait été remercié. Il est déjà passé à un cheveu d'être remercié après une défaite face à Nice, à un cheveu et demi après une grosse défaite à Strasbourg. Là, 5-0 à domicile, c'est quelque chose que les supporters auront du mal à pardonner.
Ok, bah écoute, on suivra d'ailleurs l'avenir de Claude Puel et la décision des dirigeants. Timothée, t'as pas, bon, on sait pas, tu as dit que ça faisait.
Il y a toujours l'éternel problème qui est le problème financier où il est difficile de donner un chèque à Claude Puel. Bon, au fur et à mesure que les semaines avancent et que le mois avance, donc le chèque il va être de plus en plus petit.
On suivra ça bien sûr. Le temps, le score, Nice-Strasbourg, Clément Brossard, Timothée Mémon.
La 27e, 1-0 pour Strasbourg, 9e but cette saison pour l'inévitable Ludovic Ajorc.
Alors, on revient dans un instant, je vous donne juste les dernières nouvelles venant de l'entourage de Théo Pourchaire. Il n'a rien que des douleurs musculaires. Ça c'était d'après le premier check médical. Il a passé des radios qui confirment que tout est ok. Donc c'est une bonne nouvelle pour Théo Pourchaire, accidenté en F2 au Grand Prix d'Arabie Saoudite, accidenté par Enzo Fittipaldi. On vous donnera aussi des nouvelles du pilote brésilien qui lui aussi a été hospitalisé. A tout de suite sur RMC, restez bien avec nous.
RMC, Intégral Foot.
François Pinet.
17h30 sur RMC avec Coach Courbis, avec Clément Brossard et Timothée Mémon à l'Alliance Riviera pour Nice-Strasbourg.
Où les Niçois sont en grande difficulté, François, après 31 minutes de jeu. 1-0 pour le Racing Strasbourg, le buteur. Il s'agit de Ludovic Ajorc, son 9e but cette saison. Et une stat éclair pour vous montrer la difficulté niçoise. 9 tirs pour les Alsaciens, aucun pour les Niçois depuis le début de cette rencontre. Ils sont amorphes, clairement, les hommes de Christophe Galtier dans ce début de rencontre.
Même si on a vu une première tentative tout à l'heure de Justin Kluivert, mais le tir a été contré beaucoup trop tôt pour qu'on puisse véritablement considérer ça comme un tir cadré. En tout cas, il n'est pas arrivé à destination, ça c'est certain. Le ballon est dans les pieds de Flavius Dany, lui, qui relance avec Justin Kluivert. Justin Kluivert va remettre en retrait vers Jean-Claire Todibo. Dany Luik, l'Autrichien, une nouvelle fois avec sur le côté gauche Lemina pour retrouver Kluivert. Kluivert qui essaye de proposer des solutions, qui décroche un petit peu, qui sort un petit peu de sa zone de confort, qui arrête de manger la ligne tout simplement pour offrir des solutions et toucher un peu plus de ballons. Melvin Barr, lui, est le long de la ligne. Lemina qui accélère, Lemina avec Barr en retrait, qui va faire circuler vers Rosario qui lève la tête. La déviation, c'était pas mal de la part de Casper Dolberg à destination d'Andy Delors, mais les appels étaient similaires, concomitants, et donc ils se sont plus gênés qu'autre chose. 33 minutes de jeu et ce score de 1 à 0 en faveur de Strasbourg sur la pelouse de Nice.
Allez, on va en profiter pour parler du match de la soirée entre Bordeaux et Lyon avec Jeannot Ressayer qui va commenter cette rencontre. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Match à 20h45, match très très intéressant et très important pour les deux équipes. D'abord, j'ai envie de te parler de Bordeaux. Des Bordelais en danger, une victoire lors des 10 derniers matchs et la défaite, la dernière, qui a marqué les esprits, 5-2, battue par Strasbourg.
Ouais, seulement 2 victoires cette saison, hein, quand tu résumes comme ça, à Saint-Etienne le 18 septembre, contre Reims le 31 octobre. Voilà, cette équipe des Girondins de Bordeaux est plus que convalescente. Deux équipes qui, même avec Lyon, on en parlera, ont du mal à retrouver du caractère et ont envie tout simplement de faire passer des messages, de faire oublier cette correction subie à Strasbourg, de montrer que Vladimir Petkovic a vraiment les affaires en main. Il a en tout cas reçu le soutien de Gérard Lopez qui a vu les joueurs samedi, qui a vu son coach vendredi soir. Pour l'instant, tout le monde se dit fautif. On est tous en dessous, a dit le président des Girondins de Bordeaux à nos confrères de l'équipe. Petkovic reconnaît sa part de responsabilité. On parle d'un différent entre les générations et on demande un peu plus de prise de responsabilité de la part notamment des cadres, des joueurs expérimentés. On pense à Costil, le gardien et capitaine, et Koscielny qui est actuellement blessé, touché aux ischios, et puis de voir peut-être aussi les recrues estivales prendre un peu plus leur responsabilité aussi, de faire passer les messages comme quoi on a bien fait de les faire venir à Bordeaux, à part Elis qui marque des buts, à part Niang qui commence à revenir petit à petit dans la compétition. Pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué.
Et du côté de Lyon, on avait laissé à Peter Bosz très très agacé après la défaite contre Reims là, cette semaine. Peut-être qu'il va changer des choses.
Très agacé et voire même un petit peu abattu par rapport à la différence entre les résultats de l'Europa League, où on le rappelle, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale et ça sera au mois de mars prochain, et de voir ce qui se passe notamment dans le championnat. Il a parlé de collectif désordonné. Quand on regarde par rapport à la saison dernière avec Rudy Garcia, c'est 11 points de moins quasiment à la même époque, et on a quand même un coach qui a toujours la cote. Mais combien de temps, comment ça va se passer avec les joueurs, comment les joueurs vont percevoir son discours? Il les a vus, il a discuté avec eux, il est arrivé une heure en retard en conférence de presse vendredi pour justement expliquer le fait qu'il avait déjeuné avec les joueurs, qu'il avait fait passer le message, qu'il leur a dit sa façon de penser. Je suis là pour aider l'équipe,
pas pour la casser. Strasbourg, Clément Brossard, Timothée Mémon.
Ouais, coup franc pour les Niçois à quelques mètres de la cage de Matsels. On est à quoi, 20 mètres peut-être pour les Niçois. Deux Néerlandais autour du ballon, Justin Kluivert et Calvin Stegs. Le mur strasbourgeois alsacien a été placé par Jérémy Pignard, et quand ça veut pas dans le jeu, eh bien il va peut-être falloir un coup de pied arrêté pour débloquer la situation. Les Niçois menés à 0, c'est parti. Justin Kluivert, il a glissé sur ses appuis, ça file dans le mur, mais le ballon est toujours pour Melvin Barr, avec désormais Mario Limina sur le côté gauche. Il tente de faire la différence, il s'est enfermé, mais il va trouver Calvin Stegs dans la surface de réparation, enfermé lui aussi, et donc la bonne défense alsacienne et strasbourgeois vont pouvoir se relancer. Toujours 1-0 pour le Racing Club de Strasbourg sur la pelouse de Nice après 36 minutes de jeu.
Jeannot, je t'assure, c'était un beau coup franc, hein, vraiment.
Il n'y a pas de souci, moi je vous écoute, je ne regarde pas les images, moi j'écoute que la radio. Juste pour parler de l'Olympique Lyonnais, pour finir là-dessus, Cacré est venu devant la presse, a dit on a besoin de se racheter, de montrer qu'on n'est pas mort. La volonté de montrer que ces 4 défaites sur les 10 derniers matchs, et notamment celle contre Reims à domicile, doivent être oubliés ce soir. Et puis de l'autre côté, il y a Jimmy Briand qui a fait des excuses immédiatement après la défaite face à Strasbourg et qui a dit je vous garantis, on va faire un gros coup contre Lyon. Jimmy Briand qui ne devrait pas débuter la rencontre. Des interrogations à Bordeaux comme à Lyon sur une possibilité d'avoir d'un côté comme de l'autre une défense à 3, de renforcer le secteur offensif peut-être s'il y a une défense à 4 avec Bordeaux et donc Wang, Niang et Elis. Ça aussi c'est une possibilité pour l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ce sera Shaqiri ou Aouar? Est-ce que Shaqiri sera titulaire avec Aouar, et à ce moment-là on resterait sur un faux numéro 9 avec Paqueta, et cette possibilité d'une défense à 3 autour de Deneyer, Boateng et Loukeba, puisque Diomandé est blessé actuellement. Voilà les interrogations qui seront peut-être levées en partie ce soir ici à Bordeaux au Matmut Atlantique. Coup d'envoi à 20h45 dans un match entre deux équipes convalescentes.
Et oui, ça va être très intéressant à suivre avec toi bien sûr Jeannot. Merci beaucoup, avec Romain Asselin aussi qui t'accompagne pour les commentaires. À tout à l'heure Jeannot, merci beaucoup. Une information très très importante que je vous livre maintenant. Coach, écoute bien, info RMC Sport qui concerne l'AS Saint-Etienne dont on vient de parler, qui a perdu, je vous le rappelle, 5-0 contre le Stade Rennais. Puel a été mis à pied par Saint-Etienne. L'entraîneur Claude Puel mis à pied suite à la défaite 5-0, la déroute même face au Stade Rennais. Tu
attention vois, avec ce bon ballon là pour les Strasbourgeois avec Diallo qui va rentrer dans la surface de réparation sur le crochet, il est crocheté là sur le pénalty. Le pénalty en faveur de Strasbourg. Et c'est on ne peut plus logique sur ce retour à l'arraché de la part de Lotomba, me semble-t-il. C'est lui qui se rend coupable de cette faute. Ce contre a été idéalement mené par Ludovic Ajor qui trouve son compère de l'attaque, lequel se présente dans la surface de réparation, crochette sur l'extérieur de son pied droit, efface le défenseur, mais le retour du défenseur rate le ballon mais pas les pieds de Diallo. Le croque en jambe est évident, le pénalty également. Ça fait l'occasion de faire le break pour les Strasbourgeois. On va peut-être suivre ce pénalty et puis revenir sur cette grosse actualité stéphanoise effectivement.
Mais que c'est mal défendu, que c'est mal défendu de la part dans un premier temps de Flavius Daniluc.
Naïveté impressionnante.
Ah, c'est incroyable. Flavius Daniluc qui est clairement en retard sur Ludovic Ajor qui a tout le temps de décaler tout ensuite Habib Diallo, et puis Jean-Claire Todibo qui tacle beaucoup trop tôt, qui laisse traîner la jambe
qui a frappé de 25 mètres en l'air comme une fada.
C'est Lotomba.
Ah, Jordan Lotomba qui a trouvé la touche en frappant. Il frappe complètement dévissé. Strasbourg a l'occasion de faire le break et l'occasion de mettre à genoux cette équipe niçoise. Clairement, Strasbourg mène déjà 1-0 après 39 minutes de jeu grâce à la réalisation signée à Jork à la 21e minute. Il va laisser ce pénalty à Habib Diallo qui aura l'occasion, lui, pourquoi pas, d'inscrire son 8e but. Ça marche plutôt pas mal hein, pour les deux attaquants strasbourgeois alsaciens. La main à l'oreillette pour Jérémy Pignard.
On attend pas la confirmation.
Alors là, c'est pareil, autant le VAR, je veux bien l'entendre. Ou alors, je sais pas s'ils sont en train de checker peut-être une position de hors-jeu. Mais
non.
Mais si c'est la faute, ils ont le droit de prendre des décisions tout seuls, les arbitres aussi. Enfin, de temps en temps. Ah, je veux dire, là, elle est évidente.
C'est-à-dire après, quand il repose son pied, Diallo.
Disons que c'est Diallo qui marche sur le pied.
Ouais. C'est pas si évident que ça finalement. C'est pas si évident que ça. Jean-Claire Todibo tacle, il rate le ballon, le joueur, et c'est après sur son appui.
Au sol, d'une manière ou d'une autre, il emmène le pied du joueur adverse, c'est l'attaquant.
Exactement.
Pour être très clair, là, s'il y a discussion, c'est qu'il y a un doute évidemment sur la décision que l'arbitre a prise immédiatement.
Parce qu'en fait c'est Habib Diallo qui sur son dernier appui glisse sur le mollet de Jean-Claire Todibo, mais c'est pas Jean-Claire Todibo qui le touche sur son tacle initial, donc c'est pourquoi il y a discussion là. En tout cas il est fou, Christophe Galtier. Il a vu les images, il a décidé qu'il n'y avait pas pénalty pour lui. Il est venu là vers Jérémy Pignard qui va aller voir la vidéo et il lui a fait des grands gestes de main en disant il n'y a pas pénalty pour moi, c'est clair. Et Jérémy Pignard qui va se faire un avis lui-même au bout de quelques secondes qui sont comme d'habitude, beaucoup trop longues.
Donc Galtier entre arbitre adjoint alors du coup.
Exactement, c'est le cinquième arbitre.
Un petit indice qui est quand même intéressant, c'est qu'il n'y a pas de protestation du défenseur sur ce tacle.
Soit Jean-Claire Todibo, il a absolument rien dit. Non, parce qu'il se doute bien qu'il a touché Habib Diallo sur ce tacle. La décision de Jérémy Pignard, le geste de la main, pas de pénalty. Il a estimé que Habib Diallo avait donc glissé sur le mollet de Jean-Claire Todibo. Ça rend fou de joie les ultra niçois. On en reste à 1-0 à 5 minutes de la pause pour le RC Strasbourg. Grâce à Ludovic Ajor, pas de pénalty sur ce coup-là. Habib Diallo
le plus surpris, c'est le niçois.
Avec Timothée, avec Coach Corbis, avec Clément Brossard, avec cette info importante, peu mise à pied du côté de la Saint-Etienne. On en repart dans un instant. Restez bien avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
François Pinet.
Et l'actualité se bouscule cet après-midi 17h42 avec Coach Courbis, avec Timothée Mémon et Clément Brossard. Donc à l'Alliance Riviera, je vous rappelle l'information en football de cette fin d'après-midi. Claude Puel mise à pied par l'AS Saint-Etienne après la défaite 5-0 à domicile face à Rennes. La fin de la première période entre Nice et Strasbourg, ça s'emballe puisque les Strasbourgeois se sont vus refuser un pénalty avec l'assistance vidéo. Clément et Timothée.
Exactement, il reste 2 minutes, 1-0 pour les Alsaciens, le buteur Ludovic Ajorc à la 21e, et ce pénalty qui a été refusé alors que Jérémy Pignard l'avait annoncé dans un premier temps sur Habib Diallo, eh bien, a motivé, a boosté ces Niçois qui sentent venir en eux un vent de rébellion. Il y a eu quelques offensives à placer par les hommes de Christophe Galtier, avec une tête notamment d'Andy Delors qui a terminé dans les bras de Matzels, mais c'est un coup de pied arrêté qui va arriver pour les Alsaciens, pour cette équipe de Strasbourg, et pour le tirer, le latéral droit Frédéric Gilbert. Strasbourg qui domine clairement depuis le début de cette rencontre, ils sont très pauvres dans leurs offensives, les joueurs niçois. Le coup franc à venir donc pour les Strasbourgeois, c'est frappé, contré directement par un dos niçois, celui de Justin Kluivert, et donc corner à venir. Nouveau coup de pied arrêté pour les hommes de Julien Stéphan, qui lui, au moment où Jérémy Pignard est arrivé pour voir les grandes vidéos et pour donc refuser ce pénalty, ne comprenait pas vraiment pourquoi l'arbitre avait changé de décision en voyant les images. Bon, ça peut se comprendre aussi, il y aura discussion évidemment autour de ce fait de jeu qui aura son importance dans cette rencontre où Strasbourg mène toujours 1-0. 30 secondes désormais avant la pause, le corner à venir pour les Strasbourgeois, de la droite vers la gauche en regardant la cage de Walter Benitez, c'est frappé par Gilbert, repoussé par le pied de Limina, la frappe ambitieuse tendue de Perrin, ça va revenir toujours dans les pieds,
attention,
et attention au contre niçois
avec ce ballon sur le côté gauche pour Justin Kluivert. Attention, il y a Delors tout seul dans l'axe, faut bien la donner, c'est chose faite. Delors, oh, qui aurait pu égaliser, qui tire littéralement sur Matzels, ça ne lui ressemble pas, Andy Delors, de gâcher une occasion pareille, ça aurait été un véritable hold-up d'égaliser à ce moment-là de la première période. La passe de Kluivert est parfaite, Delors se présente face à Matzels et il vient littéralement lui tirer dessus, et même pas d'un ballon franchement appuyé.
Je pensais sincèrement, j'essayais de réfléchir pendant qu'il y avait la passe, je m'imaginais Delors faire semblant de mettre un gros tir, une feinte de frappe
et crocheter,
et après crocheter, mais pas faire une passe pour gardien.
Ah, quel manque de conviction de la part d'Andy Delors. C'est vrai, comme l'a dit Timothée, c'est surprenant de voir l'ex-attaquant montpellierain agir de la sorte devant le gardien. On revoit cette occasion avec ce décalage, la passe est parfaite de la part de Justin Kluivert.
Ils veulent lober,
c'est plat du pied quand même, hein. Il rate son geste,
pour un attaquant comme Delors,
c'est étonnant. C'est étonnant, c'est parti en tout cas de l'autre côté ensuite pour les Strasbourgeois.
Tueur de surface, là, l'arme du tueur, c'est une plume.
Ah ouais, il avait le 8e but personnel au bout du pied. Attention, c'est parti de l'autre côté avec ce coup franc qui a été vite joué vers Sissoko, et ce ballon qui termine finalement dans les gants de Walter Benitez, qui tente de relancer court, mais la pression est là, la pression alsacienne tout de suite mise par Adrien Thomasson sur Melvin Barr, qui se défait péniblement du milieu alsacien. Il y a eu 3 minutes de temps additionnel annoncé, on a déjà joué 1 minute, et Strasbourg qui mène toujours 1-0 suite à ce but de Ludovic Ajorc. Les Alsaciens qui sont en train de confirmer leur confiance, et les Niçois au contraire sont en train de montrer qu'ils ont de grosses difficultés à domicile après la défaite, face à Montpellier après la défaite, face à Metz. Ils sont une nouvelle fois dans une mauvaise posture, les hommes de Christophe Galtier. Les Niçois vont se relancer avec Pablo Rosario qui est au milieu de terrain, qui va alerter Calvin Stengs là-bas sur le côté droit. Melvin Barr qui attend ce ballon sur la gauche, qui va peut-être être servi, c'est chose faite, par le milieu de terrain niçois, Mario Lemina, avec Melvin Barr qui demande du soutien. Ils se cherchent encore, les Niçois. Il y a très peu de communication, très peu de mouvement dans le milieu niçois, ça se sent. Et le bloc strasbourgeois est lui bien placé avec des lignes distinctes, 5-3-2 pour les Strasbourgeois, qui sont donc très très bien organisés, ce qui laisse très peu d'espace aux hommes de Christophe Galtier. Le centre peut-être pour alerter Andy Delors, pour trouver Kasper Dolberg, ce sera une tête alsacienne, mais ça revient sur Melvin Barr sur le côté gauche, qui va pouvoir jouer avec Justin Kluivert. Kluivert pour faire la différence, une fois, deux fois, il va retourner derrière finalement vers Flavius Danilou, parce qu'il n'a pas de solution. Comme les Niçois depuis le début de cette rencontre, ils sont muets et ils ont énormément de mal à se trouver. Pablo Rosario sur le côté droit va tenter un énième centre vers une tête de Delors, peut-être aux prises avec la défense strasbourgeoise, qui se relance un petit peu en catastrophe à l'image de Adrien Thomasson, qui garde ce ballon dans les pieds avec Ludovic Ajorc, qui va pouvoir dégager là-bas et trouver surtout Habib Diallo, qui part en contre. Les Strasbourgeois ont l'occasion de peut-être venir planter une nouvelle flèche là dans la défense niçoise et ce ballon sera contré et surtout récupéré par Melvin Barr qui va pouvoir se projeter. Il y a une faute sur cet tacle de Ludovic Ajor qui estimait avoir joué le ballon. Il va prendre un carton jaune l'attaquant réunionnais. Encore quelques secondes à jouer dans cette première période, toujours 1-0 pour Strasbourg.
Alors qu'il y a une échauffourée entre Lucas Perrin et Justin Kluivert, parce que juste après la faute d'Ajor sur Melvin Barr, et bien Lucas Perrin a été involontairement bousculé par Justin Kluivert qui ne l'a pas vu venir dans sa course. Les deux hommes se sont percutés et Lucas Perrin, un peu sanguin, s'est relevé alors que Justin Kluivert lui essayait d'éteindre un petit peu l'incendie. On va évidemment suivre la suite. Il y aura une discussion entre monsieur Pignard et les joueurs strasbourgeois, justement en l'occurrence avec Justin Kluivert notamment. Toujours en tout cas 1-0 en faveur de Strasbourg face à cette équipe de Nice, et on peut dire que c'est une addition pour le moins légère, alors que c'est la fin de cette première période sur cette échauffourée. 1-0 donc, ils s'en sortent pas si mal les Niçois. Ils auraient même pu rentrer au vestiaire avec le score nul d'un partout sur cette grosse occasion d'Andy Delors dans les derniers instants de la première période, mais il a manqué de réussite.
Strasbourg mène 1-0 et c'est clairement mérité à l'issue de cette première période.
Merci beaucoup Clément, merci Timothée. À tout à l'heure pour une deuxième période pleine de suspense, bien sûr, parce que Nice ne va pas vouloir perdre une troisième fois à domicile. On revient dans un instant pour parler aussi de l'info de la soirée. Claude Puel qui a été mis à pied par l'AS Saint-Etienne, on en parlera avec Coach Courbis et avec vous au 32-16. N'hésitez pas, supporters de l'AS Saint-Etienne ou encore sur le hashtag RMC Live sur Twitter, à venir réagir sur cette information importante. Claude Puel mis à pied par Saint-Etienne. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.